Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est historienne. Bonjour, Bibia Pavard.
Bonjour.
Bibia Pavard, vous êtes historienne du féminisme et chercheuse au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes spécialiste en histoire de la santé, en histoire des femmes, du genre et du féminisme. Vous vous intéressez particulièrement à la façon dont les idées féministes se diffusent dans le grand public, à ses stratégies militantes et à ses relais médiatiques. Vous venez de publier un livre, que sais-je, qui s'intitule « Mai 68 » et dans lequel vous rappelez notamment les discriminations subies par les militantes et les manifestantes pendant une période s'étirant de 1962 à la fin des années 70 que vous nommez les « années 68 ».
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Des militantes féministes qui réclament avant tout une liberté sexuelle. On est en 71, c'est la première manifestation du MLF, un mouvement qui a pu naître grâce à mai 68. Alors ma première question, Bibia Pavard, est la suivante, c'est la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour l'histoire? Et j'aimerais rajouter, que peuvent les historiennes pour mai 68?
Vaste question. Disons que ce qu'ont fait les historiennes à 68, c'est qu'elles ont porté le regard sur quelque chose qui restait un peu dans l'ombre, et qui était resté dans l'ombre en 68, et qui était resté en l'ombre dans les récits de 68, c'est-à-dire la place des femmes, qui en réalité est énorme. En mai et juin 68, hein, c'est-à-dire à la fois dans les manifestations étudiantes, dans les grèves, elles sont partout, sauf dans les lieux de pouvoir, sauf derrière les micros ou les haut-parleurs, ce qui fait que on a peu de traces finalement dans les écrits. Mais comme toujours, les historiennes des femmes savent aller chercher les voix de femmes partout, dans des sources alternatives, dans les témoignages oraux, et donc remettre en lumière ces milliers de femmes qui ont participé à cet événement. Et du coup, comprendre comment mai et juin 68 a fait ensuite émerger le vaste mouvement féministe des années 70.
Vous parlez aussi de violences de genre très spécifiques, hein, subies par les femmes dans les manifestations, notamment des violences policières.
Oui, alors tout à fait. Les femmes sont aussi très présentes dans la rue, elles sont présentes dans les affrontements avec la police qui sont très violents en mai juin 68, on l'oublie souvent. Elles jettent des pavés, elles sont sur les barricades. Et ce que ont pu observer les historiennes, notamment Michel Zancarini Fournel en travaillant sur les archives de la police, c'est qu'elles subissaient des violences spécifiques, notamment des violences sexuelles de la part de la police, qu'il y a des plaintes qui ont été déposées de cet ordre-là. Et effectivement, elles sont doublement transgressives, ces femmes, parce que elles s'en prennent à la police, donc elles transgressent effectivement la loi, et en plus elles transgressent l'ordre de genre, puisqu'elles sont là où on n'attend pas les femmes.
Dans la rue.
Dans la rue.
Face au CRS.
Voilà.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont pas en train de faire le café tranquillement en attendant que les militants
rentrent à la maison. Elles le font aussi, mais pas seulement.
Alors, dans la conclusion de ce petit opus, vous évoquez la postérité de mai 68, la façon dont la mémoire de 68 a évolué, en fait, au fil des décennies. Vous marquez le tournant des années 80, où finalement, la dimension radicale, je vous cite, des contestations, la matrice marxiste révolutionnaire et les violences sont effacées au profit d'un récit consensuel. Mai 68 devient une sympathique petite révolution de jeunes avec Cohn-Bendit comme sympathique égérie de cette période. La dernière phrase de votre livre est la suivante. Le rôle des sciences sociales et a fortiori de l'histoire, c'est donc d'en revenir aux faits et aux archives pour se plonger dans l'état d'esprit de l'époque. C'est ça pour vous l'histoire, c'est coller à l'état d'esprit de l'époque.
Exactement. Et effectivement, ce fut une grande surprise pour moi quand je me suis plongée dans les archives des années 68, parce qu'on y découvre un discours, on y découvre un état d'esprit qui est finalement plus étranger que l'on ne le croit, qui paraît plus lointain qu'on ne le croit. Et c'est tout à fait fascinant, en fait, de se replonger là-dedans. Alors évidemment, il y a eu un discrédit qui a commencé à s'accumuler à partir des années 80 sur ces grandes idéologies qui étaient encore très présentes dans les années 60-70. Mais c'est quand même assez fascinant de voir à quel point la pensée était radicale et l'envie de révolution était vraiment très ancrée et à quel point les acteurs et les actrices y croyaient profondément. Donc c'est vrai que c'est à mon avis cela qu'il faut faire pour retrouver une époque, c'est se plonger dans les mots, dans les images et donner la parole à ces acteurs et ces actrices.
Simone Veil au Panthéon, si on s'en tient aux faits et aux archives, à l'état d'esprit de l'époque, est-ce que ça lui aurait plu, vous pensez ?
Alors je pense que ça lui aurait plu dans le sens où elle avait, à mon avis, conscience du symbole qu'elle représentait. Mais en même temps, comme souvent les femmes politiques, elle était assez modeste et donc elle aurait sans doute trouvé ça un peu incongru de se retrouver là. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir l'évolution de sa figure des années 70 à nos jours. Parce que au moment où la loi est votée en 75, on n'aurait pas du tout imaginer qu'elle puisse se retrouver au Panthéon, ce qui montre la place des féminismes dans la transformation des représentations, des idées, de la société, qui toutes ces idées ont permis effectivement de reconnaître Simone Veil comme une femme de premier plan. Mais voilà, sa reconnaissance, elle a pu la vivre alors qu'elle était vivante, et ça c'est quand même une bonne chose. Et donc pour moi, cette entrée au Panthéon, c'est l'entrée en fait des combats féministes dans cet édifice qui les a quand même peu reconnus jusque-là.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou planche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous créper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. sans nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
C'était Anne Sylvestre, Frangine, un chant écrit pendant cette période que vous décrivez si bien. Bibia Pavard, vous êtes historienne, mais vous vous inscrivez aussi dans une mouvance large intitulée « Études féministes de genre et de sexualité ». Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Comment on fait de l'histoire avec des lunettes de genre ?
Alors effectivement, j'ai été membre de l'association EFIGI, qui était une association de jeunes chercheuses et chercheurs pour promouvoir les études sur le genre, les sexualités et les féminismes. Et effectivement, ma démarche d'historienne s'inscrit là-dedans. Avoir une démarche de genre, c'est avoir une démarche critique, essayer de déconstruire ce qu'on considère comme une nature féminine, une nature masculine, essayer de voir comment en fait ces représentations évoluent dans le temps. Et du coup, je trouve que l'histoire est à la fois un outil essentiel pour comprendre le genre, parce que c'est tout à fait parlant de pouvoir dire voilà, la masculinité au temps de Louis XIV, eh bien c'était d'avoir des perruques longues, des rubans et des talons, alors que la masculinité aujourd'hui est compris à rebours de ces représentations. Et en même temps, le genre permet vraiment aussi de renouveler l'écriture de l'histoire en essayant toujours de déconstruire les représentations.
Est-ce que c'est aussi une démarche qu'on peut qualifier de militante ?
Alors, la démarche des historiennes des femmes et du genre a été militante, ne serait-ce que pour installer cette approche dans la discipline historique. Et là, c'est vrai que je suis de la troisième, voire quatrième génération d'historiennes qui s'inscrivent dans ce courant. Et il faut rendre hommage ou famage à toutes ces femmes qui ont été pionnières et qui ont, de génération en génération, porté cette approche dans la discipline historique, ce qui n'a pas été facile. Donc, à ce titre, effectivement, c'est une forme de militantisme, hein, essayer d'imposer cette manière de faire l'histoire. Et puis c'est aussi tout simplement essayer de donner voix aux femmes dans l'histoire, dans le récit historique, ce qui est aussi une forme d'engagement, oui, c'est sûr.
Pour les citer, donc vous pensez, j'imagine, à Michel Perrault notamment, ou à Michel Zancarini-Fournel, avec qui vous travaillez régulièrement, qui sont un peu les pionnières de cette discipline.
Tout à fait. Alors je pense à Michel Perrault et à toutes ses élèves, hein, qui ont eu un rôle très important.
Christine Barr,
Sylvie Chaperon, Françoise Thébault, des historiennes qui ont à la fois une très grande rigueur scientifique, historique, et qui ont vraiment découvert des pans entiers de l'histoire par leurs travaux, évidemment j'en oublie, mais qui ont eu un rôle important aussi dans la transmission de cette manière d'aborder l'histoire, et donc je leur en suis très reconnaissante.
J'ai découvert quelque chose en lisant à droite à gauche pour préparer l'interview. Je crois que c'était chez Sylvie Chaperon que vous venez de mentionner que j'ai lu ça. En 1887, Sarmiza Bilchescu, qui est la première femme à être admise à la faculté de droit de Paris, soutient sa thèse de droit sur la condition légale de la mère. La deuxième femme à être licenciée de droit, Jeanne Chauvin, elle a fait un doctorat sur l'étude historique des professions accessibles aux femmes. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est que c'est un peu les pionnières des femmes à l'université, et les premières questions dont elles se saisissent, ce sont les questions qui concernent la condition des femmes, leur propre condition en réalité.
Alors oui, ça c'est un argument très fort qui est parfois peu entendu, mais c'est l'idée que en fait, il faut des personnes concernées pour s'intéresser à des sujets qui leur sont proches, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, ça a été très bien montré par Françoise Thébourg, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, il y avait peu de femmes dans les récits historiques, c'est que l'histoire, c'était une discipline faite par les hommes. Et du coup, ils avaient peu d'intérêt, en fait, pour ces femmes qui n'apparaissaient pas, effectivement, immédiatement dans les archives. Donc, il a fallu aller chercher d'autres sources. Et donc, effectivement, c'est aussi un argument qu'on retrouve chez les personnes concernées par le racisme ou par les inégalités de classe. En fait, c'est la nécessité d'avoir un savoir situé pour pouvoir porter ces questions qui sinon n'apparaissent pas comme évidentes. Mmh. Et donc ça entre parfois en friction avec cette idée d'objectivité scientifique, mais en même temps, ce qu'ont bien montré les études sur les femmes, le genre, le féminisme, c'est que au contraire, on en ressort quelque chose qui est une richesse pour l'approche scientifique.
Mmh. Ça me fait penser, en vous écoutant, vous avez fait un très très beau livre avec Michèle Angarini-Fournel sur les affiches féministes, 100 ans de lutte féministe, aux éditions L'Échappée, je crois. Et ça me fait penser à une affiche où on montre les femmes pendant la guerre, où on a souvent un peu caricaturé le rôle des femmes, qui étaient à l'arrière en train d'attendre les combattants. Et en fait, sur cette affiche, on remontre à quel point les femmes étaient à la fois au champ, à l'usine et au foyer. Mmh. C'est ce genre de représentation qui, en fait, corrige un peu le biais historique.
Alors tout à fait, effectivement, quand on cherche, on trouve d'autres représentations qui ont été effacées, oubliées. Et effectivement, la question des guerres mondiales, ça a été un champ d'études très important pour l'histoire des femmes et du genre, pour essayer de montrer leur participation énorme à la guerre. Et ça montre aussi le rôle de cette approche, puisqu'aujourd'hui, à l'école, au collège, au lycée, on apprend la place des femmes dans la guerre, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent.
Les programmes ont changé grâce aux historiennes du genre.
Voilà.
Bravo. J'ai lu un article que vous consacrez à Françoise Pic, qui était sociologue et historienne, et qui a écrit un livre qui est vraiment une référence sur le féminisme des années 70, qui s'appelle « Libération des femmes, les années mouvement ». Donc ça a été publié en 93 au Seuil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se trouve vraiment, c'est vous qui l'écrivez, à l'entrecroisement entre l'histoire de son statut de politiste et d'actrice de l'histoire qu'elle écrit. Elle est à la fois actrice du moment. Est-ce que c'est un rôle comparable à celui que vous tenez aujourd'hui ?
Alors justement, je pense qu'il y a une rupture générationnelle sur la manière d'aborder les féminismes des années 70. Parce que longtemps, en fait, l'histoire de ce mouvement, elle a été faite par les actrices elles-mêmes, qui avaient un autre statut aussi, souvent d'universitaire. Et donc, elles pouvaient à la fois puiser dans leur propre expérience et dans leurs propres archives et dans les recherches, les entretiens qu'elles faisaient. Donc c'est une approche assez riche, mais qui n'est pas la même que ma génération, qui au contraire n'a pas vécu la chose et donc a une distance un peu plus marquée avec les événements. Et notamment, moi je trouve que l'apport de la nouvelle génération de chercheuses, et je suis pas la seule, on peut citer évidemment Alban Jacquemart, Marion Charpenel, Camille Masclet, Audrey Lasserre, bon, on est de très nombreuses à travailler maintenant sur les années 70, c'est qu'on a un peu plus de recul vis-à-vis notamment des conflits internes, et on essaye non pas de prendre parti, mais au contraire de prendre une distance par rapport à ces conflits, de les expliquer, de les analyser, et finalement on applique une grille assez critique vis-à-vis de ces féministes des années 70, peut-être un peu davantage que la génération qui l'a vécu, même si évidemment on pourrait en discuter.
Mmh. Alors on pourrait croire qu'en faisant une histoire du XXe siècle, les archives sont beaucoup plus faciles à trouver, voilà, c'est pas comme une médiéviste qui va lutter pour retrouver un petit bout de parchemin. Et pourtant, vous venez de lancer une pétition avec Michèle Angarini-Fournel pour préserver les archives de l'IVG qui sont actuellement menacées. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors peut-être d'abord un mot plus général sur les archives. Effectivement, les archives du féminisme ont la particularité d'être assez éparpillées dans différents endroits, lieux de conservation. Et la création de l'association Archives du féminisme, il y a maintenant une vingtaine d'années, par Christine Barre, a eu un rôle très important dans la volonté de préserver ces archives, de les collecter, de les faire connaître, et notamment les archives des années 1970, qui étaient pas forcément encore considérées comme des archives, et donc encourager les militantes à les donner, ce qui a donné lieu à un très beau centre, le Centre des archives du féminisme à l'Université d'Angers. Mais plus globalement, effectivement, il y a la nécessité d'essayer de conserver les archives, et la question des archives de l'IVG s'inscrit plus globalement dans une politique actuelle de réévaluation des archives nationales faute de place, qui cette réévaluation va conduire à l'élimination de certains fonds.
Mais de quoi il s'agit concrètement ? C'est des dossiers des femmes qui ont avorté dans
les 70, ce sont des fiches individuelles remplies par des médecins lorsque les femmes venaient avorter. Donc il y a une dizaine d'années qui est conservée aux Archives nationales. Donc ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers. Et c'est ces fiches qui ont été utilisées pour faire les statistiques des IVG. Et donc nous, avec Michel Zangarini-Fournel et d'autres historiennes spécialistes de la question, on s'est dit que c'était dommage d'éliminer ces fiches, même avec la justification qu'il y avait des bases de données qui existaient, des statistiques qui avaient été créées, parce que ces sources, elles sont extrêmement intéressantes. Il y a des indications qui n'existent pas dans les chiffres après qu'on en fait. Donc on s'est mobilisé, mais plus globalement, on se mobilise pour un dialogue plus important entre les archivistes et les historiens sur les questions des sources qui aujourd'hui sont réévaluées. Dialogue qui d'ailleurs a l'air de s'ouvrir un petit peu maintenant. On a rendez-vous avec les archivistes prochainement pour discuter des archives de l'IVG.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas la première fois que les archives féministes sont menacées. On se rappelle il y a l'hiver dernier la mobilisation qui a lieu pour la bibliothèque Marguerite Durand dans laquelle j'étais moi-même assez active, donc j'aime beaucoup en parler. D'ailleurs, c'est là que vous avez trouvé un bon nombre d'affiches féministes qui sont dans le livre dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que finalement il y a un espèce de mépris institutionnel pour ces traces d'histoire qui touchent spécifiquement les femmes, vous pensez ?
Alors, je pense pas que ça soit vraiment une forme de mépris institutionnel, mais je pense que c'est un manque de conscience de ce que ça peut représenter. Alors, en particulier la bibliothèque Marguerite Durand, qui est loin d'être simplement un lieu d'archives et une bibliothèque, qui est aussi un lieu patrimonial aujourd'hui pour l'histoire des femmes et du féminisme. Et vouloir la fusionner avec une autre bibliothèque, en faire simplement un aspect d'un autre endroit, ça avait vraiment suscité une forte mobilisation pour au contraire garder sa spécificité de lieu unique de la construction de l'histoire des femmes et du féminisme. Et ce que ça montre à chaque fois, c'est que effectivement les institutions sont très surprises de la mobilisation que ça suscite. Et comme on a la chance d'être dans un contexte où les idées féministes sont quand même assez portées partout, par différents milieux, par les journalistes, par les scientifiques, par les politiques, on est entendu en ce moment lorsqu'on fait la revendication de porter une attention particulière à ces sources qui concernent les femmes et qui sont très précieuses, en fait, pour connaître l'histoire des femmes. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on peut facilement les oublier dans le récit historique. C'est pour ça que ces sources sont si importantes.
I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me. So I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need
d'écouter Courtney Barnett, Need a Little Time.
Lorraine Bastide, Les Savantes, sur France Inter.
Bibia Pavard, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire du féminisme, et il se pourrait bien que votre passion pour l'histoire soit née d'une certaine opacité dans l'histoire de votre propre famille, dans votre enfance.
Alors effectivement, on se pose toujours la question de comment on devient historienne. Alors il y a toujours des hasards, des rencontres, notamment des profs hein, d'histoire qui nous fascinent, mais il y a aussi, je pense, des prédispositions. Alors dans mon cas, c'est sûrement une prédisposition liée aux grands récits familiaux, aux origines un peu mystérieuses que j'ai. Hein. J'ai vraiment des origines très très diverses, des histoires totalement romanesques dans ma famille, de gens qui voyagent, de gens qui sont obligés de fuir, de personnes qui se séparent, et toujours un mystère assez fort qui m'a sans doute donné envie d'enquêter et de raconter ces histoires, histoires qui m'ont aussi toujours été racontées par ma mère de façon très riche. Donc je pense que il y a eu cet attrait pour le passé qui s'est développé, et je dirais qu'en plus le passé, ça a été aussi une forme d'évasion. Moi, j'ai pas jamais aimé la science-fiction, mais par contre, j'aurais aimé le passé comme lieu de surgissement de l'imaginaire, et c'est de là que me vient vraiment l'amour du récit et du mystérieux, effectivement.
Vous dites que vous avez même un goût pour l'enquête. Pour vous, il y a vraiment une perspective d'enquête. Et pourtant, donc vous avez parlé, voilà, à demi-mot des origines très diverses de votre famille, mais vous n'avez jamais voulu enquêter sur votre propre famille.
Ben, c'est vrai que pour le moment, ça me paraît très compliqué, justement parce que, un peu comme dans l'histoire du féminisme des années 70, il y a vraiment des récits concurrents assez forts. Des personnes qui sont pas du tout d'accord et des conflits assez aussi apparents, donc mais c'est quand même un projet que je garde dans un coin de ma tête, hein, et que je prends jamais le temps de mener, mais qui à mon avis pourrait donner lieu soit à un livre d'histoire, ben dans la veine peut-être du livre d'Yvan Jablanka qui m'a beaucoup plu, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu et qui m'a vraiment beaucoup marqué, ou alors tout simplement dans la veine d'un roman historique, parce que c'est tellement invraisemblable cette histoire que il y aurait de quoi écrire un beau livre à mon avis.
Et c'est un livre qui vous mènerait dans quel coin du monde alors ?
Alors c'est un livre qui m'emmènerait dans le Sahara à la fin du 19e, début 20e, et qui suivrait les pas d'un militaire français qui épouse une femme touareg et puis qui s'en sépare en prenant sa fille par la main et en revenant en France. Ça m'amènerait aussi sur les pas des juifs ukrainiens qui ont subi les pogroms et qui ont immigré aux États-Unis. Ça m'amènerait du côté du Paris, du Saint-Germain-des-Prés des années 60 et de San Francisco à la même époque. Donc beaucoup de choses et plusieurs générations de femmes effectivement très fortes et qui ont eu des destins assez tragiques, je dois le dire.
Ça sent le best-seller, moi je dis. Alors vous avez parlé de votre maman, et il semble que une grande partie de votre intérêt pour la décennie des années 70 vienne d'elle et d'ouvrages qu'elle avait dans sa bibliothèque. Elle-même, elle fréquentait le quartier latin du MLF. Vous pouvez nous raconter un peu ces souvenirs d'enfance qui sont liés à ces livres?
Alors effectivement, ma mère n'a jamais été une militante pure et dure, mais elle a eu vraiment l'art de se trouver au bon endroit au bon moment. Et donc elle habitait dans le quartier latin, dans le milieu bohème, dans les années 60, et donc elle était aux premières loges en mai-juin 68, hein, donc elle a vraiment vécu cet événement pleinement, et puis ensuite elle était aussi aux premières loges pour les réunions du MLF qui se tenaient aux Beaux-Arts à partir de la rentrée 1970, donc elle était là dans les réunions, elle allait aux manifestations, j'ai même des traces photographiques de sa participation à des manifestations, et donc elle en a toujours fait un récit tout à fait héroïque et fascinant, ce qui m'a sans doute donné envie d'aller enquêter aussi là-dessus. Et puis elle a acheté dans les années 70 des livres publiés par les Éditions des Femmes, une maison d'édition qui a été créée par un des groupes du MLF et qui donc publiait des livres de femmes. donc des fictions, mais aussi des essais. Et donc, elle les avait dans sa bibliothèque. Je pense en particulier au livre d'Elena Giannini Bellotti, Du côté des petites filles. Voilà, des livres qui ont toujours été là, qui m'ont moyennement intéressée, jusqu'à ce que je décide d'en faire mon sujet de DEA à l'époque, hein, donc de Master 2 pour les plus jeunes. Donc, travailler sur cette maison d'édition qui m'a semblé tout à fait intéressante à la croisée entre une histoire politique et culturelle, et qui m'a tout de suite fait plonger dans, disons, le côté tout à fait flamboyant des années 70 et l'intensité aussi des conflits politiques à l'intérieur de ce mouvement.
Oui, parce que donc les éditions des femmes, ça a été fondé par Antoinette Fouque, qui représentait le mouvement psychépo, pour caricaturer, qui est un petit peu essentialiste, qui a tendance à penser voilà, que les écrits de femmes ont une spécificité. D'ailleurs, les éditions des femmes, c'est une très très belle maison d'édition. Oui. Il y a une scission qui a eu lieu au moment où MLF, et apparemment, votre soutenance de mémoire a vraiment vu se raviver cette tension, cette division qui déchire encore aujourd'hui les féministes.
Ah oui. Disons que c'est un peu naïvement que je me suis intéressée à ce groupe, et c'est progressivement en travaillant dessus que je me suis aperçue de l'intensité des conflits qui l'entourent. Et donc notamment, il y a eu des procès dans les années 70 avec d'autres groupes en lien avec cette maison d'édition, donc des enjeux qui étaient à la fois politiques et économiques, et puis aussi surtout le groupe Psychanalyse et Politique dépose en 1979 une association au nom de MLF et une marque également à l'INP, ce qui vient en fait finalement qui s'inscrit logiquement dans les conflits précédents, mais qui marque une rupture énorme avec les autres groupes qui vivent ça totalement comme une appropriation. Et donc des conflits qui en plus rejouent quand, à partir des années 80, Antoinette Fouque commence à dire qu'elle a cofondé le MLF en 1968, ce qui est une aberration politique, parce que on ne fonde pas un mouvement, en fait. On peut fonder une association, certes, mais un mouvement, c'est quelque chose qui naît de la rencontre de plusieurs personnes. Et du coup,
c'était beaucoup plus protéiforme, en fait. C'était exactement. Vraiment très horizontal. Ça émergeait un peu partout en même temps. On peut pas dire c'est tel jour, telle date, en fait.
Voilà,
c'est ça.
Exactement. Et puis, effectivement, il y avait certains petits groupes qui existaient dès 67-68, hein, qui commençaient à se réunir et qui portaient des questions qui ensuite se sont développées dans les années 70. Voilà, il faut changer le regard là-dessus, et en histoire, on peut pas dire qu'on a fondé un mouvement. Mais donc,
il s'est passé quoi à votre maîtrise alors ?
Et alors, donc pardon, avant DEA, donc
DEA, pardon.
Tout simplement, il y a eu une altercation entre des membres du jury et des membres du groupe Psychanalyse et Politique, bon, c'est plus appelé comme ça, enfin, qui travaillait aux éditions des femmes, sur la manière de raconter l'histoire, de dire ce qui a profondément choqué mon directeur de DEA, Jean-François Cirinelli, qui ne se rendait pas compte, et je le cite, que le sujet était si radioactif, et qui effectivement m'a marqué aussi, parce que l'intensité de ces conflits m'ont permis en fait aussi de faire l'apprentissage du travail d'historienne, mais aussi m'ont un peu fait renoncer à mon idée qui était de faire une histoire du MLF en thèse. Et je m'en suis un peu éloignée pour faire un sujet plus large qui portait sur les questions de contraception et d'avortement, pour essayer de m'éloigner un peu de ces conflits qui m'avaient quand même un peu découragée.
Un peu échaudée, oui, voilà. J'imagine. Il y a une rencontre qui fait déclic sur votre parcours. On va revenir un peu en arrière, du coup. Donc, vous avez fait Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Et c'est une professeure d'histoire, Corinne Bouchoux, qui vous donne envie de vous emparer de ces sujets. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous ayez autant envie de suivre sa voie derrière?
Alors, c'est vrai que c'était assez extraordinaire que ce cours optionnel d'histoire des femmes en France et en Allemagne depuis 1945, qui, à mon avis, a permis de faire se rassembler à la fois une histoire familiale, un intérêt pour les questions du féminisme, et ma démarche d'étudiante à ce moment-là, puisque elle nous a fait une histoire des femmes et du genre, et puis elle a évoqué les mouvements féministes dans ce cours, en disant notamment qu'il n'y avait pas énormément de travaux sur les années 1970. Alors, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Du coup, quand je cherchais un sujet de DEA, j'y ai tout de suite pensé. Et tout d'un coup, je pense que ce que ça a permis, ce cours, c'est de rendre légitime un sujet qui m'intéressait, mais à titre personnel. Et tout d'un coup, ça devenait aussi un sujet digne d'intérêt pour le milieu académique.
Un sujet académique, quoi. C'était, vous avez fait le pont entre l'académie et les archives de votre maman, en fait,
voilà,
d'un seul coup.
Exactement. Et voilà, c'est aussi l'importance, je pense, des enseignants et des enseignantes de pouvoir justement dire oui, c'est tout à fait légitime de s'intéresser à l'histoire des femmes, du genre, de l'homosexualité, du féminisme. Et c'est vraiment grâce à ces personnes-là qu'on peut susciter des vocations. Donc elle a vraiment joué ce rôle et Corinne Bouchoux, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'elle est à la fois très modeste et en même temps elle a eu un rôle très important. Elle est devenue par la suite sénatrice et ça a été...
Europe Écologie Les Verts,
Europe Écologie Les Verts, oui. Ouais. Et c'est une des premières, je crois que c'est la première sénatrice à faire son coming out, à dire qu'elle était lesbienne. Et donc ça, c'est quand même aussi, ça montre l'étendue de son courage politique.
Votre thèse porte sur le militantisme pour la contraception et l'IVG dans les années 50 à 70. Et donc, votre directeur de thèse, vous venez de le mentionner, c'est Jean-François Cirinelli, donc vraiment un mastodonte de l'histoire en France, spécialiste de l'histoire culturelle du XXe siècle, mais pas du tout spécialiste du genre. Ça, c'est une fierté pour vous?
Disons que c'est pas forcément une fierté, mais c'est quelque chose qui a finalement eu son importance. Alors d'une part, bon, je dois rendre hommage à Jean-François Cirinelli parce que c'est quelqu'un qui a été toujours très bienveillant et très ouvert sur ces questions, qui a évidemment accepté de me suivre tout de suite et qui a toujours vraiment encouragé mes travaux jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et disons que il s'est aussi, à mon avis, ouvert à ces questions avec les étudiantes qu'il a eues. Et d'autre part, ça a eu un impact, je dirais, sur, on peut dire, ma carrière académique, parce que le fait, voilà, d'être suivi par quelqu'un qui était extrêmement reconnu dans le champ de l'histoire, ça a aussi, à mon avis, contribué à installer ce sujet d'histoire des féminismes dans l'académie, même si je l'ai dit, hein, il y avait déjà des historiennes qui avaient auparavant installé ces sujets. Disons que lui, en promouvant l'histoire du temps présent, l'histoire politique, l'histoire culturelle, il a aussi, de son côté, contribué finalement à la promotion de l'histoire des féminismes des années 70.
On le félicite. Merci beaucoup, Jean-François Cirinelli. Alors, c'est intéressant votre façon de travailler parce qu'à partir de cette thèse, vous avez publié un texte. Alors, vous tirez souvent vos sujets de recherche, mais comme le font beaucoup les chercheuses. Et vous avez publié un texte où vous mettez en parallèle l'IVG, la pratique de l'IVG militant dans les années 70, 72, en fait, avec le travail d'une consoeur, Maud Gelly, qui est médecin et sociologue, qui travaille, elle, sur le dépistage du sida militant dans les années 2000. Et là, pour moi, la frontière se trouble vraiment. Vous avez parlé d'histoire du temps présent, mais là, on est dans un entrecroisement entre la sociologie du militantisme. Enfin, est-ce que c'est vraiment encore de l'histoire quand on fait ce genre de travail ?
C'est une bonne question. Je pense que les études de genre ont vraiment permis des approches pluridisciplinaires. Et c'est vrai que depuis le début de ma thèse, j'ai eu des affinités très fortes avec des personnes qui travaillaient en sciences politiques et en sociologie sur des sujets proches. Et ça a vraiment été des rencontres extrêmement riches intellectuellement. Bah, je pense à Laure Bérény, Anne Revillard que vous avez cité tout à l'heure, Alban Jacquemart, Marion Charpenel, Maud Gelly, qui sont en fait des sociologues et qui m'ont donné envie de lire aussi de la sociologie, notamment la sociologie des mouvements sociaux, de la sociologie du genre et de la sociologie de la santé, et qui m'ont permis, à mon avis, d'enrichir mon analyse. Et de mon côté, j'espère aussi leur avoir un peu apporté une attention particulière au contexte, à la chronologie. Bon, il se trouve que ce sont des sociologues qui pratiquent les archives. Donc, on a vraiment des rencontres possibles. Et à mon avis, c'est vraiment en décloisonnant l'histoire qu'on arrive à la rendre plus riche. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est toujours de l'histoire, parce que l'histoire peut très bien s'intéresser au présent. C'est plutôt une démarche, une rigueur. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes étudiantes, à mes mes étudiants qui ne sont pas des historiens, des historiennes, qui sont en sciences de la formation et de la communication. Et voilà, j'essaie de leur apprendre ce que c'est que la démarche historienne, même quand on n'est pas dans cette discipline.
Et vous la définirez comment, en deux mots, cette démarche ?
En deux mots, ça serait compliqué, mais je dirais que c'est vraiment une attention au contexte qui essaye vraiment toujours de comprendre les faits sociaux dans un contexte particulier. Et puis, deuxième chose importante, c'est l'attention aux sources et à leur déconstruction. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a en commun avec les journalistes.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
C'était Velvet Underground, I'll Be Your Mirror. Ce qui vous interpelle toujours, Bibia Pavard, et ce qui est récurrent dans votre travail d'historienne, c'est la façon dont les idées féministes se diffusent dans la société. Les féministes se sont toujours servies des médias de masse pour passer leurs idées, mais elles ont aussi créé leurs propres médias.
Alors oui, effectivement, ça m'intéresse beaucoup, cette manière dont les idées féministes peuvent circuler dans la société, à un moment donné, et les contextes qui permettent cette diffusion. Donc ça implique à la fois de s'intéresser effectivement aux médias féministes eux-mêmes. Alors vous avez évoqué les affiches, hein, qui ont joué un rôle important, mais aussi la presse. Donc les mobilisations féministes au 19e siècle accompagnent l'émergence d'une culture de masse et de la diffusion massive de journaux. On a ensuite l'adaptation aux différents médias, la radio. Alors la télévision, c'est un peu plus compliqué parce que c'était beaucoup plus encadré. Mais la vidéo féministe dans les années 70, très bien étudiée par Hélène Flickinger, par exemple. Et puis aujourd'hui, évidemment, Internet. Donc on a à chaque mobilisation féministe importante une redécouverte médiatique, une appropriation spécifique des médias avec quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de pouvoir s'exprimer directement sans avoir à être adoubé par les médias mainstream, comme on dit. Mais en même temps, ce qui est toujours très important aussi, c'est la capacité à faire parler de soi dans ces médias mainstream, justement. Et ce qui est intéressant, ben voilà, c'est de faire des actions spectaculaires pour pouvoir avoir un relais médiatique. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce que je trouve très riche, c'est la manière dont certaines femmes sont des relais très importants dans la presse de masse pour justement couvrir ces événements féministes, pour diffuser ces idées. Et donc, à chaque époque, au 19e siècle, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 70, aujourd'hui, il y a toujours des femmes journalistes qui jouent ce rôle pivot entre les mouvements et les médias de masse.
Il y a un aspect intéressant, c'est qu'en fait, il y a tous ces médias féministes dans les années 70 qui se créent. Je pense notamment au Torchon Brûle que j'ai pu parfois feuilleter et qui est vraiment... Enfin, c'était le journal du MLF, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que vous montrez dans cet article du Temps des médias que j'évoquais en début d'émission, c'est que des magazines féminins comme Marie-Claire et Elle reprennent les codes de cette presse très militante pour finalement un peu coller à l'époque, pas se faire complètement larguer par ce discours très engagé. Vous, vous parlez même d'une parenthèse enchantée.
Alors, tout à fait, c'est un article que j'ai écrit avec Claire Blandin et Sandrine Lévesque qui, elles, ont travaillé sur Elle. Et moi, j'ai plus spécifiquement travaillé sur le magazine Marie-Claire. Et c'est vrai que on observe la nécessité, comme vous le dites, de coller à l'air du temps, de s'adapter aux lectrices qui changent. Mais dans le cas de Marie-Claire, ça va encore plus loin. On a vraiment cette volonté, de la part de jeunes journalistes aussi, de pouvoir se faire le relais des idées féministes et d'essayer de changer le monde en suivant, en collant, en imitant le discours féministe de l'époque, ce qui va donner, ce qui est assez fou, on l'a totalement oublié, mais dans Marie-Claire, de 76 à 1990, des pages femmes qui sont présentées dans le premier numéro de 76 comme le journal des féministes de Marie-Claire, donc un journal dans le journal. Donc il y a cet effet de parenthèse, effectivement, dans le temps, c'est-à-dire que c'est un moment où il faut coller à l'ère du temps féministe, mais aussi peut-être, et ça c'est l'aspect un peu critique de notre approche, de dire que c'est aussi une parenthèse dans le magazine, c'est-à-dire que ce sont quelques pages qui obtiennent un espace de liberté, mais qui est assez clos et segmenté du reste du magazine.
Ce que vous décrivez bien, je ne sais pas si on vous fait allusion, je crois que c'est plutôt une petite encyclopédie de la sexualité des femmes dans Elle, à laquelle je pense. C'est un cahier qui se détache. C'est drôle, en fait, symboliquement. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le contenu du journal. On peut l'enlever, on peut le rendre indépendant, on peut le faire disparaître aux yeux du mari ou de l'enfant qui tomberait sur le magazine.
Oui,
enfin, le symbole est très fort.
Oui, alors, et c'est la même chose. Enfin, c'est comparable dans Marie-Claire où on a des pages qui, à un moment donné, vont même avoir une texture différente, qui ne vont pas être en papier glacé. Et les journalistes de Marie-Claire à l'époque disaient qu'il s'agissait des pages qui grattent, donc à la fois dans la texture, mais aussi sur le fond. Et donc voilà, l'idée que c'est quelque chose, un petit espace à part qui permet l'expression d'idées féministes, et donc une sorte de petit fanzine à l'intérieur du magazine. qui est quand même assez intéressante dans ces formes de diffusion qui sont permises à la fois par un contexte économique du magazine qui cherche à s'adapter effectivement à un lectorat et qui colle de plus en plus aux envies des lectrices et en même temps un relais de la part de jeunes journalistes qui sont elles-mêmes féministes.
Vous l'avez dit tout à l'heure, et ça me touche beaucoup d'ailleurs, qu'il y a vraiment des ponts entre l'historienne et la journaliste, le journalisme. Il y a une période qui commence, enfin pas une période, un aspect des années 70 qui vous intéresse beaucoup en ce moment, dont vous avez envie de vous emparer. C'est une période que l'historienne Sylvie Chaperon a appelée les années Beauvoir dans un livre qui fait référence, où il y a beaucoup de journalistes et d'intellectuels qui contribuent à diffuser, à vulgariser les idées féministes dans le grand public. Alors on peut citer quelques noms, Ménie Grégoire, Eliane Victor, Evelyne Sulraux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le rôle qu'ont joué ces femmes-là?
Alors c'est vrai que Sylvie Chaperon a joué un rôle important pour essayer de sortir d'une chronologie qui donnait l'impression que tout était arrivé en 70 et au contraire
recontextualiser, comme vous dites tout à l'heure,
ouvrir la période, parler des années 68, remonter aux années 50-60, c'est aussi ce que j'avais fait dans ma thèse sur les questions de contraception et d'avortement. J'ai beaucoup travaillé sur les années 50-60 aussi. Mais disons, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette idée que la parole des femmes s'est libérée et qu'elle vient de se libérer autour de l'affaire Weinstein, autour du hashtag MeToo ou Balance ton porc. On a lu partout que voilà, c'était la libération de la parole des femmes. Et donc moi, j'ai envie, en tant qu'historienne, de recontextualiser tout ça, évidemment, et de comprendre quels sont les différents contextes qui permettent à ces paroles de femmes d'émerger. Et donc, vous avez évoqué des noms de femmes journalistes dans les années 50-60. Et donc, j'aimerais vraiment travailler maintenant sur ces espaces où la parole des femmes ordinaires a pu émerger pour évoquer donc les questions de sexualité, les questions de violence, bien avant les années 2010.
J'ai un petit quelque chose à vous faire écouter.
Le monde nous fatigue.
Ça, c'est l'hymne du MLF, entonné par des femmes et joué par l'Orchestre Debout le 25 novembre dernier, place de la République. Ce n'est pas une pièce d'archive. Cet hymne a été écrit par les fondatrices du MLF dans les années 70, enfin plus ou moins, je vous vois un petit peu faire l'amour.
Mais le mot fondatrice,
Fouque qui me l'a dit.
Ont été écrites par des femmes du MLF qui, sur le moment, étaient anonymes.
Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous émeut de l'entendre aujourd'hui entonné par des femmes de 20 ans?
Mais je trouve que c'est... Bon, on peut évoquer là du coup la question de la mémoire et de la transmission qui a été très bien étudiée par Marion Charpenel qui a travaillé sur la mémoire féministe. Effectivement, ce chant, il a à la fois une très grande force, je trouve, émotionnelle quand on l'entend. C'est vrai que de vous, femmes esclaves, c'est vraiment très fort à chaque fois qu'on l'entend. Et en même temps, ce que ça montre bien, c'est que ce féminisme des années 70 est aussi fondateur pour aujourd'hui, même si c'est un rapport assez ambigu des féministes aujourd'hui à cette période-là, une volonté de s'inscrire dans une histoire longue de mobilisation et en même temps de les renouveler. Mais je trouve ça assez significatif que ça soit un chant qui soit encore entonné aujourd'hui, qui montre quand même la force de ce militantisme des années 70, qui a su se doter d'outils multiples pour se faire connaître.
Pourtant, ce discours des années 70, il porte beaucoup sur la libération sexuelle. On écoutait en tout début d'émission cette manifestation. Les femmes réclament le droit à une sexualité heureuse et libre. Aujourd'hui, la revendication principale des féministes, c'est surtout que les hommes arrêtent de les regarder, de les toucher. Je caricature évidemment très, très grossier, mais on a l'impression qu'il y a presque un hiatus entre les deux messages dominants dans ces deux périodes féministes.
Mais en réalité, non, parce que c'est vraiment dans les années 70 qu'émerge la revendication de la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment violences sexuelles. C'est vraiment dans les années 70 qu'il y a eu une critique très forte de la culture de masse et de l'hypersexualisation des femmes. C'est dans les années 70 qu'il va y avoir la mise en avant de la question du viol comme un problème public, hein, qui va avoir un impact sur le changement de la loi sur le viol. C'est aussi dans les années 70 qu'on commence à parler des femmes battues. Donc toutes ces questions-là, elles sont aussi très très présentes. Et même si, effectivement, on est dans cette période qu'on a appelée la révolution sexuelle, qui met beaucoup en avant la liberté dans la sexualité, mais aussi une liberté qui ne pourra exister que quand la domination ne sera plus là. Aussi, très important, la mise en avant de la sexualité homosexuelle à ce moment-là. Donc, beaucoup de choses qui se jouent et qui, évidemment, ont été reconfigurées dans les années SIDA et depuis. Mais sur la question des violences, vraiment, les années 70 sont un moment totalement fondateur. Donc il y a des formes de continuité et on retrouvait déjà des types de mobilisation comme les marches de nuit qui existaient dans les années 70. La revendication de pouvoir s'habiller comme on voulait. Tout ça, ce n'est pas nouveau. En
fait. Vous contextualisez, vous faites l'historienne, mais moi il y a quand même qui me gratte un peu, c'est d'imaginer que certaines signataires de manifestes 343 femmes ayant avorté, paru dans l'Obs, qui a vraiment eu un rôle très important sur l'accès à l'avortement pour les femmes, que certaines femmes, on les retrouve combien d'années plus tard, en 2018, en train de signer le manifeste dans Le Monde contre le mouvement Balance ton porc, en demandant un droit à importuner. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de trahison féministe qui a eu lieu.
Alors, moi, je nuancerai parce que c'est vraiment une signataire que vous évoquez, c'est Catherine Deneuve qui, à mon avis, je vais être un petit peu abrupte, mais une signataire un peu accidentelle du manifeste des 343 qui fait pas partie du cœur des militantes qui ont porté ce manifeste. Elle a signé, certes, ce qui est quand même quelque chose de très important en 71, de déclarer avoir avorté, c'est quelque chose d'assez fort à ce moment-là. Mais Catherine Deneuve n'a jamais été une militante féministe, et d'ailleurs cette nouvelle tribune dans Le Monde montre bien que elle a jamais été sensibilisée à ces questions-là. Bon, après, certes, il y a des trajectoires qui ont fait des déviations et des militantes féministes des années 70 qui ont des positionnements aujourd'hui qui sont un peu en décalage par rapport à ce qu'elles avaient pu avoir comme position dans les années 70. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que celles qui étaient actives dans les années 70 sont encore actives aujourd'hui.
Comment vous pensez que les historiennes du futur ou vous, dans 20 ans, quand vous lirez les événements qu'on est en train de vivre, vous les lirez avec la même intensité que ces années 70? 70 qui vous passionne tant.
Ah oui, je pense tout à fait, parce que on est vraiment dans un moment de haut de la vague, un moment d'intensité très forte des mobilisations qui ont lieu dans différents univers sociaux en même temps. Donc à mon avis, là on est en train de vivre quelque chose qui est aussi fort que les années 70.
Merci beaucoup Bibia Pavard.
Merci à vous.
Merci beaucoup Bibia Pavard d'avoir été mon invitée dans Les Savantes. Je rappelle que votre livre Mai 68 dans la collection Que sais-je est disponible en librairie. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster en utilisant votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Vincent Godard. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Dibert. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous des savantes. Bon après-midi, à samedi prochain, avec la politiste Ciliane Larcher.